France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis septembre 2025, Bamako subit un blocus des djihadistes du Jnim, une coalition affiliée à Al-Qaïda. En ciblant les convois de carburant venant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, le groupe provoque pénurie et paralysie économique dans la capitale malienne, cherchant moins la prise militaire qu'une asphyxie politique pour discréditer la junte au pouvoir. Alors, blocus militaire ou coup politique, que cherchent vraiment les djihadistes? Pourquoi la junte au pouvoir, aidée par les forces militaires russes, peine-t-elle à se défendre? La crise malienne, qui se poursuit depuis le retrait des troupes françaises, rappelle-t-elle l'impuissance internationale au Sahel? Deux invités ce soir pour en débattre et nous éclairer. Antoine Glaser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique, auteur du Piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone. C'est un ouvrage que l'on trouve dans la collection Pluriel. Face à vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques et directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Un djihad sans foi ni loi ». C'est un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de France en 2022. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans « Question du soir ».
Ça fait à peu près 3 semaines que nous sommes à l'arrêt. Parfois, il t'arrive d'avoir un tout petit peu de carburant, mais tu ne peux pas servir beaucoup de personnes, donc on ne peut pas vendre. Il est très difficile de décrire réellement la situation que nous vivons. Pour un chef de famille qui rentre chaque jour à la maison les mains vides, c'est extrêmement dur. Depuis le début du blocus djihadiste, je les ai rencontrés une fois, mais ils ne m'ont pas touché. Mon camion avait une panne et j'étais en route pour le garer quand j'ai vu qu'ils avaient brûlé 2 camions-citernes sur la route. Les chauffeurs étaient morts. C'était vers Sikasso, mais ils ne m'ont pas fait de mal. Ils m'ont demandé de faire un détour et de poursuivre mon chemin.
Cela fait maintenant 4 jours que nous sommes à la station. Nous manquons de mots pour décrire notre situation. Nous espérons une amélioration rapide.
Alors il y a Antoine Glaser, d'un côté... un constat, hein, une asphyxie économique qui est mise en œuvre par les djihadistes. 200 à 300 citernes atteignent Bamako chaque semaine. C'était 1200 avant le blocus. De l'autre, il y a une analyse que l'on a beaucoup retrouvée dans la presse, notamment anglo-saxonne. Le Wall Street Journal, par exemple, expliquant qu'Al-Qaïda était sur le point de prendre le contrôle d'un pays, le Mali en l'occurrence. Êtes-vous d'accord avec cette analyse?
Non, c'est vrai que... il faut vraiment regarder une carte pour bien comprendre. Hein. Quand vous voyez le Mali est un pays totalement enclavé. Donc, je veux dire, l'approvisionnement du Mali, ça vient de Côte d'Ivoire et du Sénégal, de Dakar et d'Abidjan, ça vient des côtes. Donc, la stratégie du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ils n'ont pas la capacité de prendre la capitale, c'est 3 à 4 millions d'habitants, Bamako. Bon, c'est pas les 8 000 ou 10 000 djihadistes qui peuvent prendre Bamako. Par contre, ils ont une nouvelle stratégie. Ce Jnim était auparavant au nord du Mali. Et en fait, le nord du Mali, ils sont descendus autour de la capitale de Bamako, mais simplement, les Jnim, au départ, ce sont des Touaregs. Si vous rentrez pas dans des problématiques intercommunautaires, on comprend pas ce qui se passe. Le Jnim, d'une façon très stratégique, a d'abord soutenu des fronts de libération de la Zawad ou des Touaregs du nord. Il descend au sud et il est allié à d'autres communautés qui aussi prône le djihad, le Front de Libération du Massina avec des Peuls, et petit à petit, avec des Bambara, il faut savoir que l'essentiel des communautés de Bamako sont des Bambara, des Songa, ils ne sont pas des gens du Nord, des Touaregs.
Donc ils agrègent des communautés à leur cause.
Ils agrègent petit à petit les communautés, c'est vraiment une stratégie très élaborée. Avant, c'était uniquement, on disait, voilà, Iyad Khali, il est à la moitié à la frontière de l'Algérie et du Mali, en fait, ce sont principalement des Touareg. Et là, c'est une stratégie petit à petit, et là, c'est un blocus économique. Ça veut dire la stratégie, c'est en même temps de faire souffrir les populations de Bamako pour qu'il y ait une sorte de révolte populaire contre un pouvoir qui est un pouvoir militaire. C'est ça la vraie stratégie actuelle.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, L'objectif premier des djihadistes aujourd'hui qui encerclent Bamako, c'est de délégitimer le pouvoir en place, la junte militaire qui est au pouvoir depuis 5 ans au Mali.
Oui, en même temps, est-ce que ça rentre dans une grande stratégie? Il faut rappeler qu'au départ, ce blocus, c'est une mesure de rétorsion, parce que la junte militaire a interdit la vente de carburant dans les campagnes. Le JNIM a répliqué en attaquant effectivement les camions-citernes. Et puis, cette stratégie, c'est d'asphyxie économique, s'est avérée extrêmement payante. Mais de là à y voir un grand plan de conquête de Bamako, en sachant que la population bamakoise est hostile au plan théocratique du JNIM, effectivement, je crois qu'on n'en est pas là. C'est pas
Kaboul. Beaucoup disent que le JNIM est lui-même surpris de son succès, d'ailleurs, dans cette
possible,
opération.
C'est possible, tout à fait. Voilà. Parce qu'au départ, ça part sur vous mettez en place des sanctions sur l'interdiction de vente du carburant dans les campagnes qu'ils sillonnent, et du coup, ils répliquent en attaquant les camions de citernes. Mais attention aussi à ces cartes parfois trompeuses du Mali. C'est-à-dire qu'on voit des espaces qui sont coloriés, et puis on dit, ça c'est le JNIM, ça c'est l'État islamique au Sahel, ça c'est la Kataïba Massina, et puis ces espaces sont immenses. Donc on se dit, waouh, c'est super impressionnant. Donc ils tiennent le territoire. Non. En fait, le souci qu'il y a au Mali, c'est qu'il y a une fragmentation qui sauve d'ailleurs un petit peu le gouvernement militaire malien, où il y a les groupes djihadistes qui s'entretuent entre eux, et puis il y a toute une couche de violence avec d'autres acteurs de la lutte armée. Il y a des groupes séparatistes, il y a des milices ethniques, des milices paragouvernementales, il y a des incursions de l'armée aussi, ne l'oublions pas. Donc en fait, il y a énormément d'acteurs, et c'est pas, à part quelques exceptions, notamment dans le nord, qui est très très peu peuplé, autour de Kidal, etc., où là, il y a effectivement une forme de gouvernance hybride avec des djihadistes et puis les pouvoirs traditionnels locaux qui se met en place. Pour le reste, en fait, les djihadistes ont évancé l'État malien, mais ils ne se sont pas substitués à l'État malien. Et donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y a un blocus, c'est la question de savoir s'ils sont en capacité de gouverner. Et je crois qu'ils ne sont pas en mesure de gouverner pour l'instant. Ils n'ont pas une expérience de gouvernement, contrairement au Chebab de Somalie, par exemple.
On va revenir sur ce point absolument essentiel, mais avant cela, Antoine Glaser, la réussite de ce blocus, elle est tout de même manifeste. Quand on regarde le décompte de ces citernes qui rentrent effectivement dans la capitale malienne, comment expliquer que les autorités maliennes, les autorités de Bamako ne parviennent pas à faire face à cette fronde djihadiste qui regroupe en tout et pour tout, dit-on, entre 5 et 6 000 individus seulement?
Parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Encore une fois, faut comprendre que dans l'esprit, finalement, de la junte malienne, leur stratégie au départ, c'était vraiment, ils étaient obsédés par la reprise du Nord. Ça veut dire, ils considéraient que c'est le Nord, ce qu'on appelle l'Azawad, et il y avait une sorte de revendication indépendantiste, et il y a eu une alliance quand même entre des indépendantistes et Yat Rali, ça veut dire les djihadistes. Donc cette alliance du Nord, il y a quand même...
Le Nord, pardonnez-moi, dirigé en 2012 et 9 mois durant par ces djihadistes. Justement.
Absolument, et dirigé par ces djihadistes. Et finalement, le pouvoir de Bamako a quand même repris ce Nord. En particulier, quand on dit reprendre le Nord, effectivement, il faut voir, ils ont repris Kidal, ils ont repris la capitale du Nord. Mais c'est quelque chose qui n'était pas insignifiant pour le pouvoir au Mali. Ils pensaient déjà que les populations du sud du Bambara, quand vous avez des amis maliens, en particulier, pour eux, l'obsession, c'était en considérant, ils disaient, oui, il y en a marre, les Français nous ont empêchés de reprendre Kidal, on va reprendre Kidal avec les Russes de Wagner. Ce qu'ils ont réussi, ils ont repris quand même Kidal avec les Russes de Wagner, même avec des exactions, tout ce qu'on veut, mais ils ont quand même repris Kidal. Et c'était une obsession. Ils disaient, les djihadistes, on s'en fout, etc. Et c'est pas fait en un jour. Je pense qu'il faut pas sous-estimer, même si, effectivement, c'est immense, etc. Mais le problème, que ça soit même du temps d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le pouvoir malien n'a jamais exercé sur l'ensemble du territoire. C'est 1 million de kilomètres carrés. Il faut savoir, entre Bamako et le nord, vers Kidal, même à la frontière algérienne, c'est 2 000 kilomètres. Donc, ils ont abandonné toute une partie de leur territoire. Et c'est vrai que, évidemment, que le JNIM, ils sont pas sur l'ensemble du territoire. Mais, petit à petit, quand il y a des problèmes, ils exercent la justice dans un certain nombre de villages, ils ont pris des villages. Et petit à petit, en fait, ce pouvoir militaire s'est bunkérisé, a fini par se bunkériser à Bamako. Ils sont à Bamako. En plus, ils n'ont plus ce qu'ils avaient quand ils étaient arrivés au pouvoir, ça veut dire le soutien populaire. Se sont radicalisés. Ils enferment les anciens premiers ministres. Il n'y a plus de politique nationale. Ils ont interdit les partis politiques. Ils se sont bunkérisés autant politiquement et militairement.
Et pourtant, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, il faut faire un constat. Depuis 10 ans, depuis 2012 même, donc depuis 13 ans, ces femmes, ces forces armées maliennes sont bien mieux équipées, bien plus armées qu'elles ne l'étaient autrefois.
Oui, mais ce qui les gangrène, c'est la corruption et puis l'impunité. C'est-à-dire que les hiérarchies à l'intérieur de l'appareil militaire sont peu respectées. Hein. Rappelez-vous, il y avait eu un premier coup d'État militaire avec des généraux en 2020, renversé par des colonels en 2021. Au Burkina Faso, c'est un capitaine qui a pris le pouvoir. Donc ça ne cesse de descendre dans la hiérarchie. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, la faiblesse du régime aujourd'hui, de Goïta, c'est qu'il a peur de sa propre armée. Comment voulez-vous gagner un combat contre un ennemi invisible qui se cache dans la population, que l'on décrit comme djihadiste, mais encore une fois, il y a d'autres formes de conflictualité sur lesquelles il faut aussi compter, si vous n'avez même pas confiance dans vos propres hommes. Et c'est ça un des problèmes du Mali. Encore une fois, la scène insurrectionnelle est très fragmentée elle-même, mais le pouvoir malien, le pouvoir militaire aussi, on entend toujours parler, il y a des arrestations de généraux, d'officiers, etc. Ce pouvoir militaire, il est aussi extrêmement fragile. Donc il y a plus d'équipements qu'en 2012, il y a eu des formations militaires, mais l'armée reste faible, fondamentalement.
Et ils n'ont plus du tout le soutien populaire.
Ils n'ont plus le soutien populaire.
Ils ont eu à un moment donné.
Alors justement, je voudrais qu'on tente de comprendre ce succès du JNIM. Le JNIM, c'est l'acronyme, le sigle plutôt arabe. L'acronyme français, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la filiale locale d'Al-Qaïda. Antoine Glaser, d'où vient ce groupe? Comment a-t-il été formé? Et ce succès contemporain, comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, moi, on va pas aller trop loin, mais quand même, il faut quand même rappeler qu'il y avait un groupe qui s'appelait le groupe armé, le GIA algérien. Les GIA algériens, les Algériens ont réussi à envoyer tous les terroristes dans l'ensemble.
Célèbre dans les années 90, notamment.
Exactement, dans l'ensemble du Sahel. D'un autre côté, tout le monde a peut-être oublié, mais il y a quand même eu la Libye de Kadhafi et l'invincible armada commandée en particulier à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait entraîné l'ensemble des forces de l'OTAN pour aller en Libye bombarder le colonel Kadhafi. Il y avait un certain nombre de Touaregs qui étaient dans une légion qu'on appelait la légion islamique et eux, ils sont rentrés avec armes et bagages au nord du Mali. Et là, ils se sont alliés aux indépendantistes en disant, voilà, ben maintenant, on rentre dans notre pays et ce qui nous intéresse, c'est de dire l'indépendance de cette région du Nord. Et à un moment donné, c'est là on est rentré, à un certain moment donné aussi, entre les djihadistes. Il faut savoir quand même, parce que c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais quand même, tous ces djihadistes, ils sont vraiment à la frontière. Ils sont soit en Algérie, soit du côté malien. C'est pas le sujet de ce soir, mais le fait que le gouvernement de Bamako a des très mauvaises relations, a rompu ses relations avec l'Algérie, l'accord d'Alger. C'est pas si le JNIM est descendu aussi bas autour de Bamako. Je pense que ils savent bien. Alors, je dis pas que c'est les Algériens qui sont derrière, mais il y a quand même au moins une neutralité de l'Algérie vis-à-vis du JNIM actuellement.
Mais donc c'est Marc-Antoine Pérouse de Monclos, divers mouvements.
C'est le JNIM, c'est une sorte de fédération qui émerge dans les années 2016-2017, qui regroupe 5 principaux groupes djihadistes, dont un qui venait du Nord et qui avait cette genèse algérienne au départ, hein, qui était le ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et puis avec Belmokhtar, qui était sa figure la plus connue. Mais petit à petit, ils sont descendus, pendant l'opération militaire Barkhane française, ils sont descendus vers le centre du Mali, qui est beaucoup plus peuplé et qui n'est pas, entre guillemets, Touareg, où là, il y a beaucoup de Peuls, notamment. Et ils ont rallié la Katiba du Massina, qui est menée par quelqu'un qui s'appelle Koufa. Et alors là, les effectifs sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la composante Touareg de JNIM, finalement, elle reste importante symboliquement, mais aujourd'hui, au niveau des effectifs, y compris dans l'étau qui se resserre contre Bamako, on voit aussi beaucoup de gens qui viennent du centre du Mali. Et ça, c'est une donne qui s'est jouée dans les années 2000 2010, si vous voulez. Donc il y a une espèce de proto-Jnim qui vient d'Al-Qaïda, Maghreb islamique, et cette genèse algérienne. Mais aujourd'hui, on est loin de cette histoire, finalement. Et il y a une récupération par d'autres groupes qui ne sont pas du tout Touareg.
Ce succès actuel, il faut l'expliquer par un système d'alliance, hein, vous l'avez dit tous les deux. Il faut aussi l'expliquer parce qu'ils ont des moyens financiers beaucoup plus importants. Un système de taxes qu'ils sont parvenus à mettre en œuvre dans l'ensemble du pays, notamment dans les zones rurales. Et dans le même temps, des rançons obtenues en Iran, aux Émirats Arabes Unis, qui permettent de financer très largement leur développement, Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Oui, c'est-à-dire qu'à mesure qu'ils s'enracinent, effectivement, ils mettent en place des formes de plus ou moins rudimentaires de fiscalité, dont la zakat, hein, la dîme islamique, qui au quotidien leur apporte beaucoup d'argent, quoi qu'il en soit par ailleurs, des rançons, l'industrie du kidnapping. Et puis les commissions qui prélèvent aussi les droits de péage sur toute la circulation des marchandises, ça aussi c'est un revenu important, ils prennent des commissions sur le produit des récoltes dans la région de Mopti, etc., etc. Mais encore une fois, établir une forme de taxation que certains pourraient qualifier de fiscalité, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de substituer à l'État malien. C'est-à-dire que ok, ils collectent de l'argent et certains y voient même du racket, parfois du racket de protection, mais est-ce qu'ils redistribuent l'argent ? Et là est la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en mesure de fournir des services publics de base, que ce soit l'éducation, les dispensaires de santé. Il y a des endroits où oui.
Ils distribuent l'alimentation notamment.
Alors pour les grandes fêtes religieuses effectivement, ils vont distribuer de la viande, ils vont distribuer de la nourriture, mais c'est pas encore aussi développé que par exemple les chebabs de Somalie, qui là on va vraiment mis en place des ministères de la santé, des ministères de l'éducation qui encadraient les services publics de base.
Un point, Antoine Glazer, sur le rapport de ce groupe djihadiste, de cet ensemble composé de groupes djihadistes à la population. Sont-ils populaires ? Comment tentent-ils de mettre de leur côté la population malienne ?
Tout simplement sur une base vraiment aussi tribale, clanique et autre. Ça veut dire, encore une fois, ils ont l'intelligence finalement du chef Iyad Ali qui a agrégé un peu l'ensemble de ces mouvements. C'est effectivement d'aller dans le Massina, là où il y a le plus de population peul, d'avoir pris des poules à un certain nombre d'endroits. Ça veut dire d'avoir des relais locaux avec des chefs locaux d'ethnies différentes que lui-même qui est Touareg, et que les Touaregs sont rejetés. S'il y avait les Touaregs autour de Bamako, l'ensemble des populations de Bamako, des Bambara, les rejetteraient et soutiendraient à fond la junte. Mais c'est pas le cas. C'est que petit à petit, ils ont ces relais. Et puis, on a parlé des rançons récemment aussi. Ils s'intéressent, qui faisait très peu au début, ils s'intéressent aux richesses. Veut dire, il faut savoir que le Mali est quand même le deuxième producteur d'or du continent, derrière le Ghana, et l'Afrique du Sud n'est qu'en troisième position. Donc ça veut dire il y a énormément d'or, et ils ont récemment, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ils ont enlevé un émirati, et comme c'était la famille des princes, ils ont payé 50 millions de dollars. Absolument. Alors certains disent que c'était beaucoup moins, mais quand même c'est des sommes tellement énormes, et en plus il y avait 20 millions de dollars d'armement, etc. Donc ils sont en train de prendre une nouvelle dimension. Et puis un truc aussi, enfin, il faut quand même aussi, il y a une sorte de prosélytisme aussi. Le continent africain est devenu un terrain aussi d'affrontement entre les Émiratis, les Saoudiens ou autres. Il y a un prosélytisme religieux au Mali qu'il ne faut pas non plus oublier. Donc vous voyez comment il y a un ensemble entre le prosélytisme de l'ensemble des Émiratis, je veux dire, que la France d'ailleurs soutient, et puis en même temps, on voit bien cette espèce de paradoxe de ce qui se passe actuellement, et plus de les mines, plus au niveau d'un certain racket, c'est vrai qu'ils sont en train de monter en puissance sur le plan armement et financement.
Mais j'en reviens un instant quand même tout de même sur leur rapport à la population, sur leur popularité en train d'être conquise. Un seul exemple, ce sont quand même des groupes qui assassinent. Le 7 novembre dernier, une jeune femme du nom de Mariam Cissé, d'une vingtaine d'années, célèbre sur l'application TikTok, a été exécutée parce qu'elle expliquait soutenir le régime. Là encore, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Ce type d'exemple a beaucoup choqué la population malienne. Oui, mais... Comment, j'allais dire, rallier à sa cause la population ?
Mais l'exécution n'a pas été revendiquée par le GNIM, hein, faut quand même le rappeler.
Pourtant, c'est établi.
Oui, sans doute. Je ne sais pas s'il y a une enquête de police ou une affaire qui est jugée. Je ne vais pas me prononcer sur ce cas. Ce que je sais, en revanche, c'est que le GNIM ne semble pas attirer la population par son programme radical d'établissement d'une théocratie sous une forme califale ou de république islamique avec une charia intégriste. Mmh. Ce qui peut bâtir la popularité du GNIM, c'est d'abord les exactions de l'armée malienne. Hein. Parce que quand, effectivement, vous êtes un jeune peul de sexe masculin dans le centre du Mali, vous craignez l'arrestation arbitraire, la torture, on vous revoit jamais. Donc il y a aussi des jeunes qui rejoignent les djihadistes pour se protéger, finalement. Et il y a cette idée, et c'est un autre argument de popularité, que le GNIM, à terme, va être capable de, lui, vraiment rétablir l'ordre, sous couvert de charia. Il s'enracine dans la longévité. Et ça, c'est très important aussi, parce que ça devient une espèce de modèle de réussite. Ils ont quand même affronté une armée occidentale, l'armée française, d'autres, en coalition avec d'autres armées africaines. Ils sont toujours là. Et on disait à propos des talibans afghans que les talibans... les occidentaux avaient la montre, mais les talibans ont le temps, avaient le temps pour eux, et finalement, ils l'ont remporté. Et le GNIM, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont le temps. C'est des gens du cru. Ils sont là. Et ils sont là pour rester. Donc, il y a aussi quand même une attractivité qui se joue dans l'idée que, au final, ils vont pas disparaître, si vous voulez. Et que, petit à petit, ils s'enracinent, ils essayent de monter des proto-États, des espèces de formes de gouvernance hybride qui peuvent effectivement amener certains à proposer le GNIM comme une forme alternative de gouvernement à terme pour le Mali.
Deux témoignages de Maliens sur le rapport du GNIM à la charia.
On m'a demandé de séparer les hommes et les femmes.
Qui vous a demandé ?
Ce sont les islamistes.
Est-ce que c'est la religion qui l'impose ?
Moi, j'en sais rien. On m'a dit de le faire, je le fais.
S'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas le hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet, ça arrive tous les jours.
Est-ce que cette capacité, Antoine Glaser, du GNIM à appliquer la charia dans les zones rurales, même là où le GNIM lui-même est prédominant, est-ce que ce groupe djihadiste en a tout simplement la capacité auprès de la population ?
Non, mais ils n'ont pas, c'est pour ça qu'ils y vont mollo-mollo. On voit bien qu'il n'y a pas une application de la charia d'une façon absolument stricte. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'encore une fois, comme le pouvoir... à Bamako n'exerce pas, je veux dire, au niveau régalien, je veux dire, que ça soit la justice, les écoles, etc. Un certain nombre de régions et de villes qu'ils ont prises, ils ont remplacé, ils remplacent l'État, mais les gens qui ont des problèmes, des différends, c'est vrai que le GNIM, la justice du GNIM, ils s'en remettent au GNIM pour gérer les affaires locales.
Mais Par défaut d'État.
Simplement parce que l'État malien lui-même n'est pas, entre guillemets, capable d'appliquer sa souveraineté sur le territoire malien.
L'État malien, ça fait longtemps. Si vous avez autant de Maliens à l'étranger, c'est en grande partie aussi que les jeunes Maliens, quand ils peuvent, ils désertent leur pays.
Dans ce paysage-là que vous décrivez l'un et l'autre depuis le début de cette conversation, quel est le rôle des supplétifs russes ? On sait que Wagner a été remplacé par l'Africa Corps, une antenne beaucoup plus proche du pouvoir de l'État russe. Qu'est-ce que ces supplétifs-là, sur place, ont été capables de faire, de mener ? Est-ce qu'ils ont réussi à remporter quelques succès ? Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Il y a eu la prise de Kidal qui était très symbolique pour les Maliens, puisque justement, on s'était reproché aux Français qui étaient intervenus en 2013 d'avoir finalement sanctuarisé le fief séparatiste Touareg en interdisant à l'armée malienne en 2013 de partir au nord et éventuellement de mener des massacres anti-Touareg. C'était aussi pour pas ternir la réputation de l'armée française qui, rappelez-vous, avait connu des difficultés avec l'opération turquoise au Rwanda. Donc il y avait ça en mémoire. Et les Maliens en voulaient beaucoup, dès le départ finalement, aux Français sur cette histoire de Kidal. Donc Wagner, sur le plan symbolique, a permis la reprise de Kidal, mais encore une fois, c'est uniquement la ville, c'est pas. Mais Wagner a très vite perdu aussi de son crédit parce qu'ils ont d'abord mis le drapeau de Wagner sur l'ancien fort colonial à Kidal, plutôt que le drapeau malien. Alors ça a été très très mal perçu.
Une erreur symbolique majeure ?
Erreur symbolique, mais plus que ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, Wagner, on se demande vraiment si leur mandat, c'est de combattre les groupes djihadistes ou séparatistes, ou c'est pas plutôt de servir de garde prétorienne à Goïta. Et on a vraiment l'impression, encore, dans cette configuration où le chef de l'État se méfie de ses propres hommes, se méfie, à juste titre, sans doute, du coup d'État, du prochain putsch, Wagner, ou l'Afrika Korps, c'est d'abord une compagnie de sécurité privée qui vend des services de garde du corps auprès d'un chef d'État menacé.
Votre point de vue là-dessus, Antoine Glazer, fonction réelle d'Afrika Korps
Wagner, ou maintenant Afrika Korps, ils sont beaucoup plus en accompagnement et effectivement plutôt protéger le régime qu'en engagement réel. Bon, ils n'ont pas les moyens, c'est pas 1000 ou 1500 hommes. Ouais. Donc ils sont plutôt... Par contre, ce qu'on ne connaît pas, enfin en tout cas moi je ne connais pas, c'est que je pense qu'ils sont en accompagnement aussi d'accords militaires avec la Russie. Hein, je veux dire, la Russie doit se... Je connais pas, il doit y avoir des... Je sais qu'il y a des accords secrets entre le pouvoir russe et les Maliens sur l'or ou dans certain nombre de secteurs et un engagement, vous avez les militaires en accompagnement de ces accords aussi militaires, de l'ICO, etc., de matériel. Et donc, il y a un deal. Il y a un deal, mais ils sont en accompagnement. L'engagement, on a vu les exactions qu'on puisse faire, on a vu comment c'était la France à un moment donné à montrer la manipulation de Wagner quand il montrait un charnier en disant que c'était l'armée française et en fait c'était aussi pour manipulation vis-à-vis de la France. Mais ils sont plus en accompagnement, ils n'ont pas les moyens. Mais c'est vrai que en ce moment à Bamako, à partir du moment où le pouvoir est en train de perdre un soutien populaire. C'est sûr que je pense qu'au fur et à mesure, le président Assimi Goïta va avoir beaucoup plus besoin des Afrika Korps en termes de protection personnelle, de sécurité présidentielle, que pour réellement... c'est pas eux qui vont désengager réellement, même si apparemment leurs hélicos accompagnent maintenant des convois de carburant. Mais globalement, pas quand... Il faut vraiment regarder une carte pour voir même la France, déjà, de vouloir se mettre sur ces 1 million de kilomètres. C'est mission impossible.
Comment expliquez-vous que le JNIM parvienne à rallier à sa cause des groupes ethniques extrêmement hétérogènes, que dans le même temps, il ait tant de mal à rallier, j'allais dire, l'avis de la population? Est-ce que ces groupes ethniques qui se mettent dans le sillage du JNIM, c'est d'abord le fruit d'une détestation commune de la junte malienne, ou bien c'est une volonté de lutter plus idéologiquement contre la laïcité, par exemple?
Non, je pense que les malheureux civils sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Puisque les campagnes ne sont pas sécurisées par l'armée malienne, par l'État malien, faute de mieux, on passe des accords avec les djihadistes, sinon on se fait massacrer. Donc ils vont effectivement financer les groupes djihadistes, une partie des récoltes.
Ils font avec qui est présent.
Voilà, c'est parce que sinon ils seront et ils sont pas protégés. C'est donc aussi par défaut d'État, encore une fois, et par défaut de sécurité que des jeunes et des villageois et même des chefs traditionnels passent des pactes de non-agression mutuelle, finalement, avec les groupes djihadistes, dont le JNIM, quitte à effectivement financer ces groupes djihadistes. Et ça, ces petites accumulations, vous voyez, de produits agricoles qui reviennent en partie au JNIM, finalement, c'est même beaucoup plus important, au final, que la rançon payée par les Émiratis pour libérer leurs ressortissants. Hein.
Antoine Glazer.
Il faut aussi comprendre que, comme dans beaucoup de pays africains, c'est quand même la survie au quotidien. C'est la survie au quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, si vous êtes un jeune Malien, vous n'avez pas de boulot, etc., et qu'on vous propose de conduire à un moment donné un camion, on ne va pas vous donner tout de suite une Kalachnikov, mais on va vous proposer de conduire une moto pour amener un peu de matériel à un endroit, et si c'est votre survie au quotidien qui se joue. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, au-delà même de l'aspect religieux des choses, c'est la difficulté de vivre actuellement au Mali.
12 ans après l'opération Serval, 5 ans après le coup d'État de la junte présentement au pouvoir, cette montée en puissance des mouvances djihadistes, de qui est-elle l'échec? À qui appartient cet échec, selon vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos?
Tant que l'armée française était présente sur place, c'était un échec partagé. Et qui montrait aussi toutes les illusions de l'Élysée sur la capacité de la France à rétablir la paix et l'ordre constitutionnel dans ses anciennes colonies. Et là, je pense qu'on se faisait beaucoup d'illusions sur les leviers d'influence dont la France peut disposer en Afrique subsaharienne.
Échec partagé avec qui alors?
Partagé avec les Maliens. Mais pas seulement l'armée, parce que la solution, on le sait, elle est politique, elle est entre les mains des Maliens. Donc il faut que les Maliens repensent leur État, est-ce qu'ils le veulent laïque ou pas, est-ce que quelle place ils vont donner aux religieux dans le Mali du futur. Donc c'est un échec très largement partagé. Maintenant que l'armée française, j'ai envie de dire, je vais être un petit peu provocateur, je pense que l'arrivée de Wagner a été une excellente chose, parce que ça a permis de justifier le désengagement de l'armée française, qui du coup, si jamais un jour Bamako tombe, ça sera pas le camouflet qu'ont subi les Américains avec Kaboul et les talibans en Afghanistan, si vous voulez. Donc heureusement qu'on est parti, parce qu'aujourd'hui l'échec n'est plus partagé. Même si évidemment, toute la junte militaire continue de construire sa légitimité en disant que tous les maux du Mali, c'est l'héritage colonial, c'est la France, ça permet de construire une légitimité, une popularité, mais on voit que ça s'effrite. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup non plus d'un autre acteur qui joue aussi un rôle dans les sanctions financières. Il n'y a pas que le GNIM, il y a aussi l'ECOWAS, hein, la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali s'est retiré avec le Niger et le Burkina Faso, puisqu'ils ont mis en place une alliance des États du Sahel, a mis en place des sanctions financières contre le Mali. Ça aussi, hein, ça a participé des difficultés économiques du Mali. Il n'y a pas que le GNIM, si vous voulez. Il faut juste le rappeler pour l'avoir dans le périmètre, dans le radar.
Bonne nouvelle que Wagner soit arrivé au Mali, a-t-on entendu, avec provocation, je le précise. Oui. Antoine Glaser, vous êtes d'accord ?
Oui, mais je veux dire, ce qui est vrai, mais c'est vrai aussi que la France, elle était complètement dans un anachronisme historique. Ça veut dire, elle était dans une période où avant la France, elle faisait tout en Afrique. Toute la période postcoloniale de 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin, la France, elle s'est toujours crue chez elle en Afrique. Sauf qu'il n'y avait plus de les relais, c'était fini quand vous aviez 50 000 Français à Abidjan et la Côte d'Ivoire servant de base arrière au Mali. Donc elle était dans un anachronisme historique. Elle a pensé qu'en faisant comme ça le coup de feu, en servant, en empêchant les djihadistes, etc., dans l'ensemble du Sahel, sur une région, enfin moi ça m'a toujours surpris qu'on mette 5 000 hommes sur 5 millions de kilomètres carrés, alors qu'à l'époque les Américains avec 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 kilomètres carrés, ils ont fini par partir. Donc c'était vraiment un point de vue, l'armée française s'est trouvée hors sol, alors que le pouvoir malien n'exerçait pas ses pouvoirs régaliens. Et la France, elle n'est pas... Il y a une période historique, la France, elle faisait tout. Vous aviez des milliers de coopérants un peu partout. Mais la France s'est trouvée hors sol par rapport aux réalités du terrain, qui sont toujours d'ailleurs les mêmes.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Oui, l'arrivée de Wagner, finalement, a permis de justifier le désengagement de l'armée française, qui, de toute façon, était chassée du...
Vous insistez encore, là.
Oui, bah oui, parce que ça a permis de justifier, parce que si l'armée française était restée, comme l'État malien voilà, connaît une certaine déliquescence, il y avait un fort risque, effectivement, un jour, peut-être, Bamako tombe, alors que les militaires français étaient présents sur place. Donc il vaut mieux, effectivement, sur le plan de la réputation, se retirer avant que les choses n'aillent de mal en pis. Et Wagner était une bonne excuse de ce point de vue. Ah, les Russes arrivent, donc on ne peut plus continuer la coopération avec l'État malien, coopération qui avait déjà montré qu'on est allé dans une impasse et qu'on s'en sablait entre 2013 et 2022, la fin de l'opération Barkhane.
Si je vous demande à l'un et à l'autre comment combattre le GNIM, est-ce que vous me répondrez que c'est un réflexe de Français et donc une mauvaise question, Antoine Glaser ?
Oui, honnêtement, oui. Moi, j'ai toujours, je suis un petit blanc des bords de Seine et le Mali aux Maliens. Donc, voilà, mais simplement...
Et comment combattre le GNIM, ce n'est pas nécessairement une intervention de la France, la réponse.
Alors moi, je n'irai pas jusque-là, mais parce que je ne suis pas un spécialiste des djihadistes.
Mais il y a une manière de le combattre.
Mais il y a un certain nombre de confrères qui expliquent déjà que le GNIM, c'est pas qu'ils vont se séparer d'Al-Qaïda, et puis que vous aviez en Algérie un prédicateur qui s'appelle l'imam Diko, qui était très populaire, que cet imam Diko, à un moment donné, ils vont négocier, qu'ils vont le faire rentrer, ils vont faire ça entre eux, et à un moment donné, il y aura peut-être... En ce moment, le pouvoir militaire a des difficultés. On voit qu'ils ont déjà écarté un certain nombre de généraux. Il y a des problèmes internes. Donc, ça va se régler entre eux. En tout cas, pas de l'extérieur et pas par des considérations en disant voilà le djihad, etc. Ceci dit, bien évidemment que pour l'instant, l'ensemble des Maliens n'ont pas envie de vivre sous la férule de l'islamisme du GNIM. Ça, c'est une évidence, surtout à Bamako.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, sur une intervention française, hein, c'était pas du tout le sous-jacent de ma question. En revanche, sur les voies et moyens de combattre le GNIM.
Non. On est complètement d'accord.
S'il le fallait, hein.
La solution, elle est entre les mains des Maliens, pour repenser aussi la forme de l'État malien. Ça, c'est une première chose. La deuxième, quand même, qui apparaît, surtout quand on regarde, justement, avec un peu de recul, les affaires maliennes, c'est que tant qu'on a une armée qui commet des exactions, qui tue des civils et qui tue qu'au fond que les survivants vont se protéger, on en a cherché refuge dans les groupes djihadistes, il n'y a aucune chance de gagner. Aucune chance. Et là, on est face à un gouvernement qui n'a absolument aucune vision nationale du pays, ni pour effectivement engager des négociations, ni pour penser le développement. On voit plutôt un régime qui, Antoine Glaser le disait tout à l'heure, qui se bunkerise, qui se replie sur lui-même et dont la finalité...
De plus en plus autocrate par ailleurs. Hein.
Et de conserver le pouvoir. Sa finalité, c'est d'abord de conserver le pouvoir, bien avant de penser à l'unité nationale du Mali, de penser aussi à la place des Touaregs dans ce pays qui a une forme par ailleurs un peu bizarre. Vous voyez, quand vous regardez la carte, encore une fois, les cartes, elles nous disent beaucoup de choses et pas beaucoup, mais il faut les lire en les pensant aussi sur la capacité à développer un État, y compris dans les zones rurales.
Un mot rapide sur le JNIM encore, doit-il... Peut-il, est-ce qu'il va s'autonomiser par rapport à Al-Qaïda ? On présente constamment le JNIM comme une filiale d'Al-Qaïda au Mali. Est-ce que là encore, ce lien est durable ?
Il est déjà très autonome par rapport à... Si tant est qu'il y a encore un commandement central d'Al-Qaïda, parce qu'on voit que les dynamiques locales, notamment à partir de la fin des années 90, début des années 2000, au début c'est des Algériens qui viennent trouver refuge, des djihadistes algériens qui viennent trouver refuge dans le nord du Mali. Ensuite les Touaregs prennent le relais, puis les Peuls dans le centre du Mali. Donc on voit que ça s'enracine, y compris dans des logiques communautaires, et que finalement on s'éloigne du grand djihad global. Là, c'est l'ennemi de proximité qui joue. Là, l'ennemi de JNIM, aujourd'hui, c'est la junte militaire. C'est pas un grand projet d'attentat en Europe ou de califat mondial. Pas du tout. Et les gens qui se battent, ils se battent pour des intérêts de proximité. Ils vont régler des comptes. Il y a des gros problèmes fonciers, par exemple, au Mali. Et cette espèce d'idéal qui est agité à tout bout de vent de la charia est censé promettre aussi un règlement des conflits fonciers. Et s'il y a un peu de popularité justement du JNIM dans les zones qu'ils essayent de contrôler, c'est précisément parce qu'ils arrivent à résoudre des vieux conflits fonciers que la justice traditionnelle ou la justice étatique ne parvenait pas à résoudre. Donc c'est plutôt là, à mon avis, que ça se joue.
Que peut faire la junte, Antoine Glaser ? Est-ce qu'elle est coincée, dans le fond, entre l'armée et elle-même à Bamako, dans la capitale du Mali ?
Bien sûr, l'idéal, ça serait une ouverture. C'est facile à dire d'ici, mais une ouverture démocratique. C'est pas normal que cette junte qui avait un pouvoir populaire important. Les gens, ils chantaient en faveur de leur militaire. Je veux dire, ils se bunkérisent parce que je pense que entre eux, il y a un certain nombre de problèmes et ils sont en train de se bunkériser.
Mais ça, comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce qu'on explique que cette popularité se soit retournée en 5 ans, que les résultats ne soient pas du tout à l'appel par ailleurs?
En toute simplicité, parce que je veux dire, au lieu de qu'il y ait une ouverture démocratique et des élections et qu'il y ait laissé aussi la parole aux politiques, ils ont enfermé un certain nombre de leaders politiques. Ils interdisent tout parti politique, tout moyen d'expression au nom de la lutte contre les djihadistes. Et donc, ils se sont vraiment refermés sur eux-mêmes. Et refermés sur eux-mêmes, ça veut dire dans des conflits entre eux. Et le risque, c'est vraiment les conflits entre eux. Et surtout, ils sont mal avec les Algériens.
C'est ça.
Les Marocains, ils n'ont pas envie non plus de trop s'en occuper. Il y a le prosélytisme aussi islamique des grands frères du monde arabe, mais ils sont vraiment verrouillés. Il y a des problèmes. Ils comptent beaucoup sur les communautés, en particulier les communautés maliennes en France, pour toujours complètement alimenter au niveau argent. C'est quand même assez important. Il y a au moins 300 000 ou 400 000 Maliens en France. Donc, ils comptent beaucoup sur ces diasporas pour aider comme ça les populations à survivre. Mais ça, c'est un pays qui se referme.
Merci à tous les deux de ces éclairages. Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique, auteur du piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone, c'est dans la collection Pluriel. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, docteur en sciences politiques. Vous êtes chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et l'auteur de cet ouvrage qui est apparu au PUF en 2022, intitulé « Un djihad sans foi ni loi ». Pour celles et ceux qui voudraient poursuivre cette réflexion, approfondir un conseil, peut-être réécouter l'une des émissions de questions du soir passionnantes que l'on avait données il y a un an environ, et intitulée « Tchad, Sénégal, Mali, la France a-t-elle perdu toute légitimité ?» légitimité dans la région, passionnante grâce à nos deux invités de l'époque, Francis Patindé et Nicolas Normand. Cette émission se trouve évidemment sur l'application Radio France que je vous recommande de télécharger si vous ne l'avez pas. Et merci par ailleurs à celles et ceux qui ont fait penser cette émission avec moi, Diane de Vancey, Stéphanie Villeneuve, Juliette Moellic, Antoine Héral, à suivre après le journal. Dans la foulée de la grâce accordée par le pouvoir algérien à Boualem Sansal, une question: Sansal, quel pont entre sa littérature et son personnage médiatique?